C'est de la physique, de la chimie, de la biologie, beaucoup de sciences de matériaux. Et donc, nous avons par exemple un très grand centre dédié aux nanotechnologies à Grenoble, mais après, il y en a des nanotechnologies, il y a aussi à Saclay, dans d'autres centres. Et puis, le LARCIM, qu'est-ce que c'est? Alors, moi, je suis physicien à l'origine et puis aussi philosophe avec un double parcours. Alors, quelques personnes du CEA, quelques scientifiques du CEA ont formé ce petit laboratoire unique pour tout le CEA. Le CEA, c'est 15 000 chercheurs dans toute la France qui travaillent sur les questions sciences et sociétés. Alors, nous avons tous des vies un peu doubles, des vies de scientifiques, moi sur l'information quantique, en physique quantique, et puis aussi de philosophe sur les questions d'éthique des sciences, sciences et sociétés. Donc, vous voyez que bon, tout évolue et même le CEA n'est plus comme dans les années 40 ou 50. Le CEA, maintenant, a aussi un groupe de philosophes qui s'intéressent aux questions sciences-société. Voilà, ça c'est pour la présentation. Merci d'ailleurs pour cette troisième, je crois, invitation à Poitiers. Ça fait plaisir toujours de venir. On va parler donc non pas de physique ni de chimie, mais d'éthique. Alors l'éthique, qu'est-ce que c'est? Voici ma première définition. Si ça marche, ah ben ça marche, très bien. Ça c'est ma première définition de l'éthique des sciences. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Je sais pas, il y a un peu trop de lumière, mais j'espère que vous voyez quand même. Alors, regardez, regardez. Bon, ça vous reconnaissez peut-être la métaphore de la condition humaine avec Adam et Ève, avec cette pastiche d'un tableau de Lucas Cranach, et puis cet objet qu'ils tiennent entre les mains là, ce petit objet. La question c'est si Adam et Ève c'est la métaphore de la condition humaine, alors comment est-ce que la présence d'un objet technique change la condition humaine, la condition de l'homme dans le monde. Comment est-ce que la technique change la condition de l'homme dans le monde? Et pour moi, c'est la question de l'éthique des sciences. Donc l'éthique des sciences, ce n'est pas de mettre des petites étiquettes, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça il faut le faire, ça il faut pas le faire. Mais avant tout, c'est une réflexion sur le change, sur le sens de la modification, du changement qu'apporte la technique à notre vie. Voilà. Et puis vous avez d'autres choses sur cette image, non, n'est-ce pas? Qui voit des choses intéressantes? Bon, il y a un philosophe grec déchu, ça c'est clair. Bon. Après, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est une pomme au visage humain. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une pomme qui est en train de souffrir parce que ou c'est un robot qui a décidé de prendre l'aspect d'une pomme, peut-être, non? Vous voyez, bon, après, bon, il a une chimère là. Quelqu'un voit d'autres choses intéressantes? Le serpent est à côté du serpent. Ouais, un violon sur le tronc de cet arbre. Bon, alors, vous voyez peut-être à quoi a pensé l'artiste, non? Parce que le violon, donc de la musique, et puis l'iPod produit de la musique. Alors, est-ce que c'est la technique et la musique venue de la technique qui remplace celle venue de la nature? Vous voyez, bon, donc c'est pas si simple cette petite image. Alors pourquoi est-ce que je vous la montre? Bon, parce que c'est une image qui apparaît fin 2010 sur la couverture de The Economist. Ces questions que pose cette image, à travers des métaphores bien sûr, ces questions sont importantes pour nous tous. The Economist, vous connaissez probablement, c'est un magazine que lu dans le monde entier, publié à la fois en Angleterre et aux États-Unis. Ces questions sont des questions de première importance pour pas seulement les scientifiques, pas seulement les industriels, mais tout le monde. Alors, ça, c'était ma première définition de l'éthique des sciences. Je passe à la seconde. Alors, la seconde, c'est le seul peut-être moment de vraiment de grande philosophie de l'histoire du XXe siècle. Je vais vous parler de deux grands livres. S'il y a deux références de philosophie de la technique, deux grands livres de philosophie de la technique que je vous recommande chaleureusement, des grands livres du XXe siècle à lire, ce sont ces deux-là. Alors, Hans Jonas écrit dans les années 70, ce livre paraît au début des années 80, Le principe responsabilité. Donc, il écrit déjà à l'ère des biotechnologies et il dit ceci, il dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit, le problème éthique, c'est un décalage entre deux vitesses. Alors, quelle vitesse? Il dit, la puissance humaine, la puissance de l'homme, donc que possède l'homme et son excédent par rapport à toute préconnaissance certaine, donc la possibilité de prédire des conséquences donc de notre action technique, ont pris de telles dimensions que le simple exercice quotidien de notre pouvoir, qui constitue la routine de la civilisation moderne, devient un problème éthique. Donc vous voyez, pour Jonas, c'est assez intéressant, c'est notre pouvoir technique qui va plus vite que le pouvoir de prédiction, la capacité de prédiction des conséquences, qui en soi déjà est un problème éthique. Alors bon, ça c'est une vision philosophique des choses. Et puis Hannah Arendt. Alors Hannah Arendt, peut-être quelqu'un a vu le film sorti il y a 2-3 ans sur Hannah Arendt? Non, personne. Bon, Hannah Arendt est une grande philosophe allemande et américaine. Elle a vécu jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne, un peu en France pendant la guerre et puis aux États-Unis. C'est une philosophe politique, mais elle a écrit un grand livre de philosophie de la technique. Et elle dit dans ce livre quelque chose qui n'est pas du tout banal. Alors, suivez-moi, vous allez voir pourquoi... Ce n'est pas du tout banal, ce n'est pas du tout trivial, elle dit. Ce qu'elle dit. Bon, elle dit, elle parle de l'homme et de son savoir-faire. Et puis, nous tous, nous avons l'habitude de penser, d'entendre en tout cas beaucoup dans les médias, tous les journalistes le disent, que nous sommes devenus en quelque sorte des esclaves de nos gadgets. Ça, vous avez peut-être déjà entendu ça. Alors, le smartphone, on ne peut pas s'en passer. Le portable, on aime bien taper plus qu'écrire à la main. Un peu des esclaves de nos gadgets. Hannah Arendt dit non. Ça, c'est une trivialité. C'est vraiment une banalité, quelque chose que tout le monde peut dire, n'importe quel journaliste. Par contre, elle, et ça, c'est ça l'intérêt d'une vraie philosophe de la technologie, elle va dire quelque chose de tout à fait différent. Nous ne sommes pas devenus des esclaves de nos gadgets, parce qu'en plus, qu'est-ce que ça veut dire, esclave d'une machine, mais, dit-elle, nous sommes devenus des esclaves de notre savoir-faire. Du moment où on sait faire, on va faire. Et ça, c'est pertinent pour la condition humaine, n'est-ce pas ? Du moment où l'homme sait faire, il va faire. Et c'est ça, pour Arendt, le problème de l'éthique des sciences. Alors, on n'est pas des esclaves de nos machines, mais du savoir-faire. Une petite question pour terminer sur Arendt. Ce livre paraît en 1958. Alors, on est avant l'informatique, avant la biologie moléculaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est pour Hannah Arendt la dernière génération des technologies de pointe? On n'est pas en nanotechnologie en 1958 encore. Qu'est-ce qui se passe, hein? Le nucléaire, c'est pas mal. Alors, tout à fait, la bombe atomique, 1945, donc c'est pas tout à fait non plus 58. Mais effectivement, dans le livre, Arendt, elle parle du nucléaire. Elle en parle beaucoup. Mais il y a quelque chose qui se passe vraiment juste avant. Hein? La télévision. Alors, ça, c'est intéressant. Elle n'a pas vu que c'est un vrai problème important politiquement. Dans les années 50, elle ne parle pas de la télévision et de ce que la télévision allait changer. Mais il y en a d'autres. Il y a, par exemple, McLuhan, enfin, d'autres philosophes qui déjà en parlaient. Mais non, elle parlait vraiment d'une technologie de pointe, quelque chose qui se passe. Une petite... hein? Oui, alors en 1957, comment elle s'appelle ce satellite-là qui est lancé? Le Spoutnik, voilà. Donc pour elle, ça c'est intéressant, pour elle, la dernière génération des technologies de pointe, c'est le voyage dans l'espace, avec le lancement de Spoutnik, et pour elle, l'imaginaire, la science-fiction tourne autour des voyages en l'espace. Alors que pour nous, vous voyez, ça a déjà pas mal changé avec les technologies de l'information qui ont pris un peu la place dans notre imaginaire de beaucoup d'autres choses. Bien, alors ça c'était l'introduction philosophique, et maintenant je vais sur qu'est-ce que l'éthique, si vous voulez, mes deux façons de définir le sens de cette interrogation éthique, et puis je vais commencer une séquence assez longue sur les questions de société dont vous entendez déjà parler depuis ce matin, je pense, et vous avez déjà plusieurs fois entendu parler de ce débat en 2009-2010 sur les nanotechnologies, mais j'espère que je vais vous le présenter un peu différemment. Je vous rappelle, c'est un débat commandité par plusieurs ministères, donc les ministres de l'époque, un débat planifié dans 17 villes françaises. Il commence le 15 octobre 2009 à Strasbourg avec des représentants de la Commission européenne. On vous a déjà parlé ce matin, je pensais, de ces choses-là. Et puis à Toulouse, donc, quelqu'un ouvre dans la salle une bobine d'ammoniac, attaque chimique, la salle est évacuée, le préfet n'est pas content. Ensuite, d'autres débats à Grenoble, un débat chahuté, à Marseille la même chose, à Lyon la même chose, à Orsay la salle est dégradée la veille, donc ça se passe un peu comme ça. Des graffitis sur les murs des villes nanomonde égale maxi contrôle, des banderoles nano c'est totalitaire, des opposants qui bloquent le débat, un site web des opposants, etc. Alors qu'est-ce qui se passe? Et la question que je vous soumets, on va essayer d'avancer un peu, essayer d'y répondre, c'est, mais alors nous, dans les laboratoires, nous faisons de la science, nous travaillons en nanosciences, les industriels ou la recherche technologique travaillent en nanotechnologie, et puis ça suscite ce genre de rejet, ce genre d'opposition radicale, nano c'est totalitaire, nano monde égale maxi contrôle, mais où est-ce qu'ils l'ont trouvé? Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous, dans les laboratoires, nous ne sommes pas très totalitaires, n'est-ce pas? En tout cas, nous n'avons pas vraiment le sentiment d'avoir une quelconque relation avec l'histoire de contrôle ou de totalitaire. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre ce phénomène? Comment comprend-on cette réaction, ce rejet, cette position radicale? Et on va essayer d'avancer un peu aussi dans la réponse à cette question. Alors, je vous signale que déjà, dans un premier temps, que ce n'est pas réservé aux nanotechnologies. En plus, la vague des nanotechnologies est en déclin, clairement. Les nanotechnologies, aujourd'hui, en 2015, sont beaucoup moins, pas scientifiquement, mais socialement, beaucoup moins visibles pour la société comme un problème que, par exemple, la biologie de synthèse. Alors, la biologie de synthèse, on en parle depuis 2 ou 3 ans, comme il y a 7-8 ans, on parlait des nanotechnologies, il y a la même chose, il y a non à la vie synthétique, avec des gens qui bloquent le débat, etc. Donc, vous voyez que ce genre de réaction n'est pas spécifique aux nanotechnologies. Il n'y a rien de particulier à l'échelle du nanomètre pour comprendre ce phénomène social et sociétal. Bien, on continue, et je vous montre, ça c'est le site web du débat public sur les nanos. Quelqu'un vous l'a montré déjà ce matin, peut-être? Non, pas encore. Donc, ce même débat national sur les nanotechnologies, et il existe d'ailleurs encore ce site web, vous pouvez voir, il y a plusieurs cahiers d'acteurs dont a parlé Stéphanie Lacour tout à l'heure, et puis, si je peux me permettre, il y a vraiment un peu à la française, il y a vraiment des milliers de pages, de rapports, de documents, de beaucoup, beaucoup de choses. Et pour comparer, le site web du débat national sur les nanosciences et les nanotechnologies aux Pays-Bas. Vous voyez, alors, bon, ça change un peu. L'image qu'on donne des nanosciences et des nanotechnologies n'est pas exactement la même. Là, il y avait beaucoup de mots, beaucoup de documents. Alors ici, vous avez ce professeur avec son microscope à effet tunnel qui vous regarde droit dans les yeux, très sérieux, n'est-ce pas? Vous voyez que c'est le même contenu scientifique, d'accord? Les sciences, la science n'a pas changé. En France, aux Pays-Bas, ce sont les mêmes nanos. Mais la façon dont on en parle, l'image qu'on en crée, n'est pas du tout la même. Et maintenant, débat national sur les nanosciences et la nanotechnologie, toujours le même contenu en Angleterre. Alors, de quoi est-ce qu'il est question ici? Vous voyez? Des applications, tout à fait. Donc, on parle des nanotechnologies pour le sport, pour l'alimentaire, pour l'environnement, pour la médecine. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, peut-être pour cette maison intelligente, même avec un robot qui coupe l'herbe. Vous voyez, encore une fois, c'est le même contenu, mais la façon d'en parler n'est pas la même. L'image qu'on crée aux yeux de la société n'est pas du tout la même. Et pour terminer, l'Allemagne n'a pas fait de site web, ils ont juste envoyé un mail disant si vous voulez débattre, venez. Donc vous voyez, en Allemagne, l'approche a été encore différente des autres. Donc vous voyez que le même contenu scientifique ne détermine pas encore la perception par la société des nanosciences et des nanotechnologies. La façon d'en parler est très importante. Alors, bien, l'Europe aussi, l'Europe d'ailleurs a organisé, la Commission européenne a organisé des, presque 50 projets de débat, de discussion sur les nanotechnologies. Et puis, qu'est-ce que ça a donné ? Alors, qu'est-ce que ça a donné ? Il y a eu quelques sondages à l'époque, par exemple, ce sondage français, pas seulement en France, donc comme vous avez vu, mais ce sondage et les Français, entre novembre 2009 et mars 2010, donc justement entre, pendant le débat nano, le pourcentage des gens qui avaient entendu parler des nanos ne change pratiquement pas. On est ici dans les statistiques autour de 60%. Donc vous voyez que ce débat n'a finalement pas changé grand-chose pour la société, et ce n'est pas seulement la France. Si vous regardez ce qui s'est passé en Suisse, vous voyez à peu près la même chose. Un peu plus tard, en 2012, après, donc un an et demi après leur débat sur les nanos, des sociologues ont trouvé que la connaissance de tous les champs d'application a diminué et est devenue plus abstraite. Elle est devenue plus abstraite. Donc, vous voyez que cet instrument, le débat sur les nanotechnologies, ne marche pas, il n'atteint pas la société, il n'atteint pas les buts qu'on donne au débat science-société sur les nanos. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Quels autres instruments ? C'est peut-être une question que vous me poserez tout à l'heure, mais je vais maintenant dévier un peu. Et je vais parler de ces trois aspects de la définition des nanos, et particulièrement du troisième aspect. C'est cet aspect, l'aspect sociétal, qui va nous intéresser. Donc, je continue toujours à parler, non pas de la philosophie ou d'éthique, mais toujours des questions de société. Alors, on reviendra un peu plus tard à l'éthique. Alors, l'aspect des définitions, et je dirais même trois définitions. Les nanos, nanosciences, nanotechnologie. D'un côté, c'est un phénomène scientifique et technologique. Vous êtes tous ici des scientifiques. De l'autre côté, et ça, je ne sais pas si vous en avez parlé ici, mais c'est assez intéressant, c'est un phénomène économique. Alors, il y a de la nano-industrie, il y a des indices boursiers pour l'industrie nano, l'industrie chimique, physique, etc., qui travaille avec des nanomatériaux, des nanoparticules. Donc, c'est un phénomène économique tout à fait important. Il y a des lignes dans les budgets d'investissement en nanotechnologie. Si vous regardez par exemple le budget pour la recherche de la Commission européenne, c'est un phénomène économique, mais aussi sociétal ou social, et c'est ce troisième aspect de la définition qui nous intéresse. Alors, quand vous regardez ce qui se passe au sein de la société, les nanos, on les trouve un peu partout. Il y a d'un côté, par exemple, les nanos et la comparaison avec les OGM. Alors, les nanos pour l'économie, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, les nanos à l'usine, ou une chance pour les PME, ce sont des titres de presse. C'est d'ailleurs avant le débat sur les nanotechnologies. Et puis, les nanos avec la révolution, les nanos et le besoin de demander un avis du peuple, les nanos et un comité des éthique, pourquoi donc, et puis les nanos pour les militaires. On voit que les nanos, on les trouve vraiment partout, et c'est ce que voit la société. La société n'entre pas dans un laboratoire, la société lit la presse, elle voit toutes ces choses-là, et puis elle entend parler aussi de ces choses qui s'appellent nanos, qui se vendent dans un magasin, qui s'appellent nano, mais sont-ils nano? Pourquoi s'appellent-ils nano? Le iPod nano, ça vous l'avez déjà vu. Vous n'avez peut-être pas encore vu la voiture Tata Nano? Ça, quelqu'un a vu celle-là? Pourquoi s'appelle-t-elle nano? Est-ce qu'il y a des nanomatériaux? Il y a peut-être quand même quelques nanomatériaux dedans, mais ce n'est pas pour ça, n'est-ce pas, qu'elle s'appelle, en particulier dans les peintures, il y a sans doute des nanomatériaux, mais elle ne s'appelle pas nano parce qu'il y a des nanopeintures, elle s'appelle nano parce qu'elle est petite, et puis parce que tout ce qui s'appelle nano, c'est moderne, n'est-ce pas? Donc vous voyez que ce mot nano, il se détache là, je ne dis pas nanoscience ou nanotechnologie, vous avez peut-être remarqué, tout à l'heure je disais à chaque fois nanoscience ou nanotechnologie. Maintenant, je dis nano, parce que pour la société, il n'y a pas de distinction. Pour la société, il y a ce préfixe nano qui a une vie à lui, qui a une vie un peu à part. Alors, cette vie comprend l'aspect nano-art et nano-littérature, les aspects nano-art et nano-littérature. Je ne sais pas si à Poitiers, quelqu'un a déjà organisé une exposition du nano-art, mais il y a plusieurs villes d'ailleurs qui ont fait ça dans les musées de sciences. Ça peut être, on va en parler tout à l'heure. Ça est assez amusant, vous voyez des images colorées avec des couleurs comme ça. Et puis, nano-littérature, il y a à peu près 5-7 nano-romans, nano-films film de nanofiction. Et ça, c'est le roman le plus connu, Prey, de Michael Crichton, dont je pense que vous avez déjà entendu parler aujourd'hui. Donc, c'est un phénomène de société. Et ici, nano n'est pas du tout défini par le sens scientifique ou technologique du mot. Ici, les nanos, c'est ce qui est petit, invisible, imperceptible, et ce qui est lié tout de suite à l'idée de salut, transgression, catastrophe. Vous voyez, la société, vraiment, a créé sa propre image des nanos, ou de ce petit préfixe qu'on colle à beaucoup de mots assez différents. Et est-ce qu'il y a un lien entre le phénomène scientifique et cette perception par la société? Ben oui, je pense qu'il y a un lien, mais on va peut-être l'explorer sur ce dessin. Alors, ce dessin, c'est un puzzle, comme vous voyez peut-être. C'est un puzzle que j'ai photographié il y a 2 heures. Dans un restaurant à Poitiers où j'ai déjeuné, excusez-moi, je n'ai pas déjeuné avec vous, mais voilà, j'ai déjeuné avec un collègue dans un restaurant ici au centre-ville de Poitiers, et sur le mur, j'ai trouvé un puzzle probablement qui vient des années 1910. Je pense qu'il vient des années 1910. C'est marqué ici « chauffage au radium ». Le thème du puzzle, c'est « en l'an 2000 ». En l'an 2000, qu'est-ce qui va se passer? Alors, beaucoup de choses intéressantes. Sur le puzzle, il y a, je pense, il y a une dizaine de petits dessins. Et le chauffage au radium. Alors, aujourd'hui, quand on dit chauffage au radium, vous pensez que je plaisante. Mais dans les années 1910, qu'est-ce qui était important pour notre analyse, pour le parallèle que je vais construire avec les nanos? Dans les années 1910, le radium, ou même 1900 peut-être, le radium, c'était nouveau. C'était quelque chose de nouveau. Et donc, toutes les promesses, tout de suite, s'y collaient. D'accord ? À la fois de salut et de catastrophe, à la fois de révolution et de transgression des frontières. Donc, vous voyez que ce qui est nouveau suscite, et ce n'est pas exclusivement réservé aux nanos, ça suscite toujours le même type de réaction au sein de la société. Chaque nouvelle génération des technologies de pointe va produire à la fois des promesses et des craintes, à la fois des espoirs de salut et des craintes de catastrophe. Donc, la nouveauté, c'est ça qu'on craint ici. Ce n'est pas juste le fait que nano, c'est petit ou invisible, mais tous les faits que vous observez au sein de la société, toute cette résistance, etc., c'est en grande partie dû à la nouveauté. Alors, comment dépasse-t-on la nouveauté? Comment quelque chose qui est nouveau devient normal? Ben alors, normal, il devient par la normalisation. Et le rôle des normes, peut-être pas nécessairement des lois, mais des normes ISO, et en tout cas du débat juridique autour des définitions et tout ce que vous avez vu, c'est tout ce que vous avez vu avec Stéphanie Lacour tout à l'heure, c'est de normaliser, c'est-à-dire rendre normal. Parce qu'on dépasse l'étape d'excitation, autant positive que négative, et on entre dans ce qu'on appelle la science normale. C'est un terme de Kuhn, d'un grand historien des sciences. Et donc, vous voyez que ces définitions jouent aussi un rôle politique. C'est un rôle politique au sens grec du mot, au sein de la cité, de la police grecque. D'accord ? Donc, ces définitions, ces normes, jouent pas seulement un rôle industriel ou juridique, mais également un rôle politique au sein de la cité, pour la société. Bien, on continue. Alors, ça, c'est la loi Grenelle 2 que vous avez déjà vue avec Stéphanie Lacour. La base sur les nanomatériaux où tous les producteurs français doivent les déclarer. Je vous signale que ce site ne fait que demander des déclarations. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes producteur, vous y allez, vous déclarez les nanomatériaux que vous utilisez, mais ce site ne nous informe pas de déclarations des autres, parce qu'elles sont le plus souvent du secret industriel. La grande question, c'est pourquoi déclare-t-on Est-ce qu'on déclare pour informer? Parce que pour l'instant, on n'a pas, le citoyen n'a pas vraiment été informé. Ou est-ce qu'on déclare parce que c'est une obligation politique de déclarer, parce que c'est quelque chose de nouveau et donc l'État doit le savoir. Donc vous voyez que cette histoire de déclaration, il y a beaucoup, beaucoup de politique dedans. Et on va voir tout au long de mes exemples que le rôle des processus politiques est important. Alors comment reconnaître quelque chose de politique dans le débat autour de la science? Et encore une fois, je souligne, les nanotechnologies ne sont pas ici exceptionnelles. Ce même débat, on peut le tracer à la fois sur le radium et sur la biologie de synthèse, avec le décalage d'un siècle entre les deux. Par exemple, regardez un autre débat sur les nanomatériaux organisé par l'ANSES, l'agence donc sanitaire, notre agence sanitaire française. Ce débat mène à la publication d'un rapport. Je ne vous demande pas du tout de lire tout cela, mais vous voyez ce rapport publié il y a un an. Il parle des principes moraux de sincérité et de transparence. Il fait le lien avec le principe de précaution. Et puis, il est couvert dans la presse au lendemain de sa sortie. Il est couvert dans la presse dans Le Monde, par exemple, dans un article avec un titre pareil, « Les nanomatériaux de point invisible et omniprésent ». Vous voyez ce qui se passe? C'est-à-dire, c'est un rapport écrit par des experts qui parle de sincérité et transparence, avec beaucoup de mots, en tout cas des intentions très honorables. Et puis, quand ça sort sur la place publique, au sein de la société, vous voyez tout de suite la radicalisation des avis et des positions. Ennemi invisible et omniprésent. Hein. Vous imaginez, au laboratoire où vous travaillez, être au contact des ennemis invisibles et omniprésents. Et pourtant, c'est le monde qui le dit. Donc, vous voyez, la transposition d'un débat scientifique ou expert dans la sphère politique, dans la sphère sociétale, mène à la polarisation. Et cette polarisation, c'est ce que nous avons vu avec le débat sur les nanotechnologies, où il y a eu des opposants radicaux opposés au développement des nouvelles technologies. Bien. Il y a d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent regarder ce que fait le CEA sur les questions science-société, il y a par exemple ce site web sur la toxicité, sur la sécurité des nanomatériaux, qui s'appelle NanoSmile, pour sourire un peu. Bien, ça c'est mon transparent central, et je vais m'attarder quelques secondes sur cette catégorisation, classification des questions éthiques. Alors, les questions éthiques, avant de vous dire quels sont les quatre catégories des questions éthiques. Encore une fois, les questions éthiques ne sont pas des questions scientifiques. Elles n'ont pas de réponse vraie ou fausse, n'ont pas de réponse objective. Il y a des prises de position et des arguments pour ou contre, mais il n'y a pas la bonne réponse à une question éthique. Les questions éthiques, avant encore de vous dire quelles sont ces questions, ne sont pas nouvelles pour les nanotechnologies. En tout cas, il y en a très peu qui sont vraiment originales pour les nanotechnologies. Ce sont des questions qu'on avait déjà posées pour les générations précédentes. Alors, quelles les générations précédentes? Les biotechnologies, les technologies de l'information, l'ingénierie génétique, etc. Qu'est-ce qui est donc nouveau? Pourquoi, finalement, on ne peut pas prendre un livre des années 70 et le lire en changeant ingénierie génétique pour nanotechnologie? Ce qui est nouveau, et c'est la raison pourquoi on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est le contexte dans lequel nous sommes, dans le contexte des relations sans société. Et j'aime beaucoup cette image, la tour d'ivoire dans laquelle la science pouvait évoluer jusqu'à il y a quelques décennies, cette tour d'ivoire s'est cassée. On ne fait pas confiance par défaut aux scientifiques. Le scientifique doit justifier auprès de la société sa démarche. Il doit demander, en demandant un financement à la société, il doit expliquer quel bénéfice la société va tirer de son travail. Ce n'était pas tout à fait comme ça dans les années 50 ou 40. Et ça a changé. Alors pourquoi, comment ça a changé? C'est un long débat. Est-ce que ça a changé à la suite des affaires autour de la science? Alors, quelles affaires autour de la science? Pas seulement Tchernobyl et Fukushima, mais aussi le sang contaminé, les OGM, etc. Des affaires qui touchent à la recherche, ou est-ce que ça a changé pour des raisons économiques? Bon, on peut en parler, si vous voulez, pendant le débat. Donc, la situation dans laquelle nous sommes est nouvelle. Vous êtes très bien protégé tant que vous êtes en thèse, parce que, normalement, c'est votre directeur de thèse qui parle aux personnes extérieures, mais ça ne veut pas du tout dire que vous ne devez pas vous intéresser aux questions science-société, parce que dès le moment où vous allez écrire votre premier projet de recherche, vous-même, vous allez devoir expliquer à la société quel bénéfice, quelle utilité de votre recherche complètement scientifique, peut-être même abstraite, peut-être même très en amont, pour la société. Et donc, de toute façon, tous les scientifiques aujourd'hui doivent faire cet exercice. Et cet exercice, on va en parler dans deux minutes, mais je commence par une catégorie des questions éthiques qui, encore une fois, n'est pas spécifique aux nanos. Ce sont des questions à traiter au cas par cas, là. Des questions à traiter au cas par cas sont des questions dont on parle, des questions éthiques dont on parle au sein des comités d'éthique. Alors, les comités d'éthique, par exemple, en biotechnologie, alors que ce soit nano ou pas nano, il y a un comité d'éthique que vous connaissez peut-être pour les biotechnologies et la médecine en France, qui s'appelle le Comité Consultatif National d'Éthique, CCNE. Quelle est la spécificité de ces questions? Ces questions n'ont pas de réponse générale. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que tous les cas de clonage dans tous les organismes doivent être interdits. Il faut regarder au cas par cas, dans chaque projet scientifique concret, ce qui peut être autorisé et ce qui doit être interdit. Au cas par cas, toujours au cas par cas, pas de règle générale. Pour les technologies de l'information, alors qui en France s'occupe des questions en technologie de l'information? Des questions au cas par cas en technologie de l'information. Quelqu'un sait peut-être? Il y a quelque chose qui s'appelle la CNIL. La CNIL, c'est quoi? La Commission nationale informatique et liberté, créée en 1900, au moins quelle décennie? Hein? Oui, alors créée à la suite de la loi informatique et liberté, 1978, la première au monde. La France a été pionnière ici, et en plus aujourd'hui la France s'est dotée, d'ailleurs je n'ai pas pu le dire à vos collègues il y a 2 ans parce que ça n'était pas le cas, mais aujourd'hui la France possède aussi un comité d'éthique particulier en informatique pour les chercheurs. La CNIL, c'est pour les usages et pour les industriels principalement, pour les bases de données, pour savoir si votre passe Navigo ou votre carte peut être, ces informations peuvent être gardées ou pas. Mais aujourd'hui, il existe la CERNA, commission d'éthique pour la recherche en numérique. Donc, vous voyez qu'ici, on crée de plus en plus de structures pour réfléchir aux questions éthiques. Alors ça, c'est la première catégorie des questions éthiques, les questions à traiter au cas par cas. Il y en a d'autres, les questions liées à l'imaginaire, aux fictions et aux visions. Alors vous avez déjà vu les exemples du nanoir ou de la nanolittérature. Est-ce que ça n'a aucun effet, aucun impact sur la réalité des nanosciences? Bon, d'un côté, on peut dire que c'est de la fiction. C'est clairement pas ce qui se passe au sein des laboratoires. De l'autre côté, cette fiction, cette littérature, ou l'image artistique ou les films, ils motivent les jeunes. Il y a pas mal de gens qui, à 14 ans, les regardent et qui décident de s'intéresser aux nanos. Ça motive aussi la société, pas seulement les jeunes. Et donc, ça a clairement un impact sur la perception sociale des nanos. Bon, ça, c'est le deuxième aspect. Maintenant, le troisième. Et le troisième, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui va vous concerner tous, qui vous concerne déjà pour votre réflexion individuelle, mais qui va vous concerner aussi dans votre carrière de chercheur si vous décidez de la poursuivre. C'est les questions autour de la responsabilité du scientifique. Alors, quelle est la responsabilité du scientifique? Et je vais commencer par quelque chose d'assez choquant. Alors, c'est un document de la Commission européenne qui s'appelle le Code de bonne conduite pour la recherche responsable en nanosciences, nanotechnologies, publié en 2008, et dans ce document, que vous n'avez pas encore vu aujourd'hui, je pense, dans ce document, qui est un document de la Commission européenne, d'accord ? Donc, ce n'est pas l'avis d'un philosophe. C'est un document officiel de la Commission européenne qui dit, entre autres choses, que les scientifiques, donc les chercheurs et les organismes de recherche demeurent responsables des incidents sur la société, l'environnement et la santé humaine que leurs recherches en nanosciences et nanotechnologies peuvent entraîner pour les générations actuelles et futures. Point. Qu'est-ce que vous en pensez ? Hein ? Aberrant, dit quelqu'un. Voilà. Alors, effectivement, générations actuelles et futures, c'est-à-dire le chercheur qui fait son travail est responsable, il n'a pas de limitation de durée, d'accord ? Actuelle et future, point. Demeure responsable, mais dans quel sens ? De tout ce qui va se passer avec son travail, même si ce n'est pas du tout lui qui va l'utiliser, d'accord ? Une fois publié, c'est étrange, au moins, qu'on puisse dire. Bien, alors quel sens de responsable ? Est-ce que c'est une responsabilité à l'instant ? Est-ce que c'est une responsabilité morale ou légale ? Alors, si c'est légal, c'est clairement problématique. D'ailleurs, en anglais, ce texte parle non pas de liability, qui est le mot anglais pour dire responsabilité légale, mais de accountability, qui est une sorte de responsabilité plus vague, morale, pas légale. Mais en français, il y a un seul mot, en allemand aussi. Alors, est-ce que cette responsabilité est individuelle ? Ou collective, regardez, les chercheurs et les organismes de recherche. Mais est-ce que vous, personnellement, vous pouvez être responsable ? Alors, par exemple, on peut vous faire procès. Ou est-ce que c'est la sphère de recherche dans son ensemble, ou votre institut, ou votre groupe ? Alors, qui est cet agent qui est responsable ? Vous voyez, est-ce qu'Einstein était responsable pour la bombe atomique ? Alors, au sens légal, je pense que vous êtes tous d'accord, au sens légal du mot responsabilité, non. Mais il se sentait moralement responsable. Pourquoi ? Parce que, et vous savez peut-être qu'il a écrit dans les années 40 et 50, et même à la fin des années 30, il a beaucoup écrit à propos du nucléaire, parce qu'il se sentait moralement responsable. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a mis au monde, qui a introduit dans le monde une des théories, en tout cas, qui a servi à développer le nucléaire. Votre question ?
Ouais, clairement, cet article, en fait, c'est tout simplement pour protéger les entreprises. Enfin, moi, je le trouve pas si étonnant que ça, si vous voulez. Enfin, je vois code de conduite européen et puis les chercheurs, les organismes demeurent responsables. Bah, voilà, ça protège les entreprises si jamais il y a des problèmes derrière sur les nanotechnologies qui sont utilisées au final.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est publié par la Direction générale de la Commission européenne, qui s'appelle DG, Direction générale Recherche. Alors, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit publié par DG Entreprise, mais c'est publié par la DG Recherche. En fait, bon, vous voyez, il y a eu d'autres projets européens qui ont dit « c'est totalement inacceptable ce texte, il faut le réviser fondamentalement, etc. » Bon, qu'est-ce que ça a donné ? Ce que ça a donné aujourd'hui, ça c'était en 2008. Ce que ça a donné aujourd'hui, c'est ce mot-là que vous voyez, innovation responsable, et il y a même un autre mot qui se glisse dedans, c'est le mot recherche. Recherche et innovation responsable, RRI. Dans le programme des financements de toute la recherche européenne jusqu'à 2020, qui s'appelle Horizon 2020, tous les projets de recherche, c'est-à-dire probablement soit vos projets de recherche qui vous financent aujourd'hui, soit ceux qui vont financer vos post-docs dans quelques années. Tous ces projets doivent contenir une partie sur recherche et innovation responsable, quel que soit le thème du projet, pour expliquer au comité de sélection comment votre projet en chimie, en physique, etc., est responsable. Pourquoi votre recherche, c'est de la recherche et innovation responsable. Il y a plusieurs axes dans cette notion de recherche et innovation responsable. Et parmi ces axes, on peut en parler tout à l'heure, mais je vais quand même avancer. Parmi ces axes, il n'y a pas de transfert industriel ou valorisation économique, mais il y a par exemple les questions d'éducation, il y a par exemple les questions liées au débat sociétal, est-ce que vous y participez ou pas. En bref, la Commission européenne vous demande, nous demande à tous les chercheurs qui sont financés par l'Europe aujourd'hui de réfléchir au moins sur leurs responsabilités. Et à mon avis, ces phrases extrêmement radicales, de style « les chercheurs demeurent responsables jusqu'à l'infini », ces phrases sont formulées comme elles sont formulées, de façon très provocatrice, exprès pour réveiller tous les chercheurs. Si la communauté, en gros, en 2008, a réagi de façon très négative en disant « il faut le réviser », c'est qu'au moins la communauté a réagi. Et l'Europe, clairement vise à réveiller un peu les gens et de leur dire les problèmes d'interaction avec la société sont réels. Donc éveillez-vous. Bien, le quatrième type des problèmes dont je ne vais pas parler ici en détail, ce sont les questions de gouvernance. Les questions de gouvernance qui sont principalement les questions de gestion de l'incertitude. Stéphanie Lacour vous en a parlé tout à l'heure. Si vous êtes un manager et vous devez prendre une décision ici et maintenant à propos de quelque chose qui n'est pas du tout certain et connu. Par exemple, la toxicité de certaines nanoparticules, on en a parlé dans la séance des questions précédentes, n'est pas connue. Mais vous devez décider ici et maintenant si vous les mettez sur les marchés ou pas, et est-ce que vous autorisez ou pas la production. Comment est-ce que vous, selon quel principe est-ce que vous allez décider ? C'est ça le débat autour de la gouvernance. Quel est votre principe de gouvernance? Quel est votre principe en tant que manager? Est-ce que vous allez attendre par précaution? Mais si vous attendez, il se peut qu'il soit trop tard, simplement parce que quelqu'un d'autre va le faire. Et si vous agissez trop tôt, si vous décidez trop tôt avant l'arrivée des données, par exemple d'autoriser la mise sur le marché, il se peut que tel matériau est toxique. Soit toxique. Donc, vous voyez comment décider. Et c'est un débat qui est un vrai débat. Il n'y a pas que le principe de précaution. Il y a, par exemple, les règles de prévention, etc. Il y a beaucoup de questions pour les managers. Bien, alors, la communauté scientifique n'ignore absolument pas ces questions. Je vous montre ici quelques dessins de Nature Nanotechnology. Donc, vous voyez que Nature, la communauté scientifique en parle et en parle beaucoup. Et puis, les questions autour des images. Bien, je vais vers la fin et je reviens sur deux thèmes, deux sujets qui, à mon avis, sont centraux, sont cruciaux pour comprendre l'interaction avec la société. Et le premier de ces sujets, c'est l'image. Vous avez déjà vu les exemples de nanoart. Alors, voici un exemple qui, j'espère, vous parlera. Peut-être vous allez vous en souvenir pendant quelque temps. C'est une image, la légende est là, publiée dans une revue de science. Alors, Electron Scanning and Micrograph to record the overloading of a cobalt ferrum barium magnetic array. Bon, ça ne vous dit rien et c'est publié pour les spécialistes dans une revue de science. Maintenant, cette image sort d'une revue de science et elle est publiée dans une revue grand public. La légende n'est plus là parce que la légende n'est pas compréhensible. Et si je vous la mets ici en deux exemplaires, c'est qu'elle est publiée, vous allez voir, bon, la façon dont elle est publiée dans une revue grand public, c'est comme ça. En quoi est-ce que ça ressemble? Oui, voilà, alors, champignon nucléaire, explosion, en tout cas, ce n'est pas sympa. Ce n'est pas très sympa. Vous voyez bien, on revient vers le noir et blanc, c'est une image d'un microscope qui n'est pas optique. D'accord? Donc, les couleurs ne sont pas là. L'échelle nanométrique, c'est plus petit que la longueur d'onde de la lumière visible. Donc, il n'y a pas de couleur. Physiquement, il n'y a pas de couleur à cette échelle-là. Les couleurs sont ajoutées par l'artiste ou par le scientifique. Et en l'occurrence, ici, par le scientifique qui a donné cette image à une revue grand public. Vous voyez le message que cela communique. La première idée qui vous vient en tête en tant que citoyen quand vous regardez ça n'a rien à voir avec la science. Ça, c'est lié aux couleurs. Les couleurs ne sont pas là dans les données. Les couleurs sont surajoutées. Et maintenant, la même image, ça vous avez compris. Alors, exactement la même information scientifique, à quoi est-ce que ça ressemble? Des brocolis, voilà, des arbres, des buissons. En tout cas, c'est plus sympa que la précédente. Et beaucoup plus sympa. Vous voyez, encore une fois, la perception de cette image dépend en premier lieu de quelque chose qui n'est pas de l'ordre des données scientifiques. Ce sont les couleurs surajoutées par l'artiste. Et ça, c'est très important si vous pensez à la perception de nos travaux, de nos métiers par la société. Souvent, ces choses qui ne sont pas dans les données, qui sont ajoutées aux données, font le sens du message. Le sens du message n'est pas toujours dans les données. On peut aussi l'avoir ailleurs. On peut aussi construire son message en mettant ces choses supplémentaires, ces quelques aspects supplémentaires qui ne sont pas dans les données. Et puis, alors ça, vous avez déjà parlé ce matin du transhumanisme et des visions, des grandes visions, les grandes utopies derrière la recherche de pointe. Je pense que non, pas beaucoup, ouais, pas beaucoup. Alors, on peut dire le transhumanisme, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une vision? Est-ce que c'est une secte? Est-ce que c'est une idéologie? Moi, je pense que l'intérêt n'est pas dans le choix du mot, et je ne vous définis pas encore une fois le transhumanisme, vous en avez déjà parlé ce matin. D'accord. Je pense que l'intérêt ici n'est pas dans le choix du mot, mais l'intérêt est dans le fait que ces idéologies, ces visions sont de plus en plus réelles, non pas parce que nous, en tant que scientifiques, nous y adhérons, même s'il y a d'ailleurs pas mal d'ingénieurs, surtout ingénieurs informaticiens qui adhèrent, mais parce que la société en parle de plus en plus. Et ça, la société voit dans ces utopies un peu le but ultime, la raison d'être des nouvelles technologies. Alors, quelques exemples. Alors, bon, pourquoi pas ça? Ça, ce n'est pas du tout nano. Enfin, encore que c'est un peu nano. C'est une fille en Angleterre qui a vu des images d'Oscar Pistorius à la télé. Oscar Pistorius, vous voyez qui c'est? D'accord, un coureur sud-africain avec ses prothèses en nanofibre de carbone, pas nanotube, nanofibre de carbone. Il n'a pas de nanotube de carbone dans ses prothèses. D'ailleurs, comme dans les rames de vos vélos, par exemple, bon, vos vélos, il n'a pas beaucoup de nanotubes de carbone. Ce sont des fibres beaucoup plus longues, jusqu'à 2 microns. Donc, ce n'est pas. Ça n'appartient pas au domaine des nanos avec la définition européenne. Mais cette fille, elle a eu quelques problèmes là. Elle s'est fait amputer et elle a mis une prothèse. On lui a mis une prothèse ici, un peu comme la prothèse de Pistorius. Et puis, elle s'est rendue compte qu'en fait, pour courir, c'était extrêmement efficace. Elle a demandé qu'on lui coupe la jambe pour mettre une deuxième prothèse. Vous voyez que ces visions, d'un côté, bah, j'entends, c'est atroce, de l'autre côté, c'est un désir qu'elle a formé spontanément elle-même. Personne ne lui a imposé ça. Vous voyez que ces visions que je peux augmenter mon corps, d'accord? Je peux devenir meilleur que mon corps biologique. C'est quelque chose de tout à fait réel, finalement. Il ne faut pas reléguer ça au domaine de pure fiction, c'est quelque chose de tout à fait réel. Et puis, il y a plein de livres, même aujourd'hui en France, il y a plein de livres sur le transhumanisme, ça n'a pas été le cas il y a encore quelques années. Il y a encore quelques années, ce programme ou cette idéologie ou cette vision était plutôt relégué à la Californie, à quelques ingénieurs en Californie. Aujourd'hui, c'est un sujet dont on parle à la radio pratiquement toutes les semaines. Oui. Oui, voilà, Jean-Michel Beignet est venu parler ici pour ceux qui habitent Poitiers. Bien, dernière remarque. Comment comprend-on l'interaction entre la science réelle, comme elle existe aujourd'hui, et ses visions ou ses utopies? Quel lien? Clairement, ce lien existe. Il existe dans la société. Comment peut-on le comprendre? Et Nous avons écrit avec des collègues là-dessus, sur ces grands récits que vous connaissez tous, Frankenstein, etc. Mais je vais vous raconter une histoire à la fin, une histoire qui pose la même question, le même problème que celui posé par les technologies de pointe, les nanotechnologies en l'occurrence, mais pas seulement, encore une fois, toutes les technologies de pointe. C'est une histoire ancienne. Elle a été trouvée dans les années 1960 dans des manuscrits qui datent de la fin du 2e, début 13e siècle, des manuscrits venus de la vallée du Rhin et des populations juives qui, à l'époque, habitaient dans la vallée du Rhin. Pour ces gens, ne me demandez pas pourquoi, on va dire par définition, même si je peux vous expliquer pourquoi, mais par définition, comme on dit en maths, pour ces gens, le prophète Jérémie était l'homme le plus sage et le plus intelligent de tous. Alors, le prophète Jérémie, que voici d'ailleurs par Rembrandt et par Michel-Ange, le prophète Jérémie ne pouvait pas seulement se satisfaire de savoir qu'il était l'homme le plus sage et le plus intelligent, il devait le démontrer, il devait faire quelque chose pour le prouver. Vous voyez, je vous pousse un peu vers l'analogie avec le chercheur d'aujourd'hui pour qui, disait Hannah Arendt, pour savoir, il faut faire. Vous souvenez, le savoir-faire, c'est le critère de... Alors, il devait faire quelque chose, mais puisqu'il était le plus sage et le plus intelligent, il devait faire quelque chose que les autres ne pouvaient pas faire, et donc il fait un homme artificiel. Et les hommes artificiels, d'ailleurs, comme tous les êtres artificiels, dans la tradition juive, s'appellent des golems. Donc ce n'est pas le golem de Prague que vous connaissez peut-être. Quelqu'un connaît l'histoire du golem de Prague ? Quelqu'un a entendu parler de cette histoire qui a été inventée dans les années 1830 à la suite de Frankenstein? Bon, alors ce n'est pas le golem de Prague, si vous ne connaissez pas, tant pis, c'est un autre. Et je vous raconte le golem de Jérémie. Ce golem était parfait, tellement parfaite était la connaissance de Jérémie. Il ressemblait parfaitement à un homme, il pouvait parler, il se lève et aussitôt il parle à Jérémie. Et il lui dit, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Mais je t'ai fait, toi. Non, 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 dit le golem, dit le golem. Golem n'est pas un nom propre. D'ailleurs, est-ce qu'il a un nom propre? Et quelle l'importance de cette question? Alors, non, non, non. À partir de maintenant, dit le golem à Jérémie, quand un homme rencontre un homme dans la rue, il ne saura plus si c'est un homme né de père et de mère ou fait par un autre homme. Vous voyez ce qui se passe? C'est une frontière, c'est une question éthique, c'est une frontière juridique, sociale, qui a été brouillée par l'innovation ou l'invention de Jérémie, par l'introduction dans ce monde, par Jérémie, de cet homme artificiel dans la légende, ça brouille une distinction qui jusque-là avait été nette et claire entre deux catégories, dans le droit ou dans le jugement simplement, dans le jugement par quelqu'un qui rencontre d'autres gens dans la rue. Alors, brouillage de frontières. Nouvelle question éthique. Et ce qui est très étonnant, c'est que Jérémie n'y avait pas pensé. Jérémie est étonné. Alors, pourquoi? Mais comment ça se fait qu'un homme aussi sage et intelligent, le plus sage et le plus intelligent, n'y avait pas pensé? Et la légende ne répond pas à cette question. C'est à nous de l'interpréter. D'ailleurs, je vais vous demander, peut-être tout à l'heure, pourquoi Jérémie n'y avait pas pensé? Bon, Jérémie n'y avait pas pensé. Il demande au golem ce qu'il doit faire. Il dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Et le golem lui dit, défais-moi. Il ne dit pas, tue-moi. Il dit, défais-moi. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Alors, on tue quelqu'un de vivant, mais défait une machine. C'est-à-dire, c'était un processus réversible. Alors, Jérémie... le défait. Je passe sur les techniques mystiques, magiques qu'il utilise. Ce n'est pas ça la question. Il le défait. Fin de légende. Vous allez me dire, mais c'est un peu facile. Mais effectivement, parce que Jérémie avait ce privilège inouï de réversibilité de son action technologique, entre guillemets, dans le monde. Aujourd'hui, quand nous introduisons dans le monde des objets techniques nouveaux, des portables, des smartphones, nous n'avons absolument pas de possibilité de revenir en arrière, de retourner le monde à son état précédent. On ne peut pas extraire du monde tous les téléphones portables, enfin, ce serait un peu compliqué. Donc on n'a pas ce privilège de réversibilité. Et donc, en quelque sorte, on doit faire mieux que Jérémie. On doit penser à ces questions, non pas après, mais peut-être pendant, même avant. Et alors, faire mieux que Jérémie, ça veut dire qu'il faut faire mieux pour nous tous que l'homme le plus sage et le plus intelligent, par définition. Et c'est la question que je vous pose. Comment faire mieux que l'homme le plus sage et le plus intelligent ? Et je vous laisse avec cette question.
Ça finit bien. Hein. Alors, est-ce que ça suscite des questions ? On a encore 10 minutes. Non, ils sont...
Vous pouvez, par exemple, proposer des versions. Pourquoi Jérémie n'y avait pas pensé ? Des versions de réponse.
Bonjour. Je voudrais savoir... Enfin, tout à l'heure, vous avez parlé de... un problème d'information entre la science et la société. Et je voudrais vous poser la question de savoir si vous ne pensez pas qu'il y a une sous-information. C'est-à-dire, en science, on conçoit quelque chose, notamment sur les nanoparticules. Et puis, dans la société, on conçoit autrement. Est-ce que c'est parce que les scientifiques ne transmettent pas la bonne information au public ? Ou bien est-ce que c'est parce que l'information qui est transmise est en quelque sorte brouillé, et qui fait que le public ne retient que le négatif.
Alors, la question que vous posez est très importante. C'est une question pas seulement sur la vulgarisation, ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique, mais aussi la question sur l'éducation. Et ça, c'est encore plus important. Il y a deux aspects à ce problème. D'un côté, soyons francs, la physique qu'on enseigne aujourd'hui au lycée s'arrête plus ou moins à Maxwell. Je ne sais pas si au lycée, on vous a parlé de la mécanique quantique ? Un peu ? Oui ? Hein ? Bien avant Maxwell ? Même bien avant. Écoutez, supposons que ça va peut-être jusqu'à l'électrodynamique, mais pas jusqu'à la mécanique quantique. C'est déjà un peu trop, vous me dites. Alors l'électrodynamique, les années 1870, c'est-à-dire on est aujourd'hui à 120-130 ans de là. C'est-à-dire, si vous, maintenant, vous imaginez un prof d'histoire qui s'arrête à Napoléon et qui dit « Ah ben maintenant, prochaine leçon, Deuxième Guerre mondiale ». Voilà, 120-130 ans, voilà, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, l'éducation, clairement, est... très très loin de ce qu'elle devrait être en science aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qui va dans l'autre sens, dans le sens opposé, il est totalement illusoire de penser qu'on peut convertir la société dans son ensemble et faire de tout un chacun un petit scientifique. Ça, non. Parce qu'il y a les mathématiques, la science d'aujourd'hui est basée sur les mathématiques, elle n'est pas intuitive, etc. Bon, elle a beaucoup de problèmes de complexité. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que les objets qui nous entourent, les objets du quotidien, les smartphones, j'ai laissé le mien là-bas, mais bon, on va dire que c'est presque un smartphone, ces objets sont des boîtes noires pour Madame et Monsieur Dupont, pour le citoyen ordinaire. Des boîtes noires dans quel sens ? Ils savent quelles sont les entrées et les sorties, ils savent qu'il faut cliquer là et ça va sonner quelque part, ou vous allez pouvoir envoyer un mail, je ne sais pas. Mais les entrées et les sorties, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la boîte ? On ne sait pas. C'est une boîte noire. La technologie l'a toujours un peu été. Les chemins de fer étaient des technologies tout à fait opaques pour l'homme ordinaire du 19e siècle. Mais ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, ces boîtes noires sont ubiquitaires, sont omniprésentes. Elles sont avec vous tout le temps. Vous vivez avec elles. Du chemin de fer, on pouvait s'éloigner à 20 km, pas de son smartphone, et on n'a pas envie en plus. Donc, la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui est fondamentalement une société magique. Magique au sens technique du mot, parce que nous vivons avec des boîtes noires au quotidien. Et là, aucune éducation n'effacera jamais ce phénomène. Évidemment, on peut faire un peu mieux et éduquer un peu plus, mais il faut comprendre comment change la société, comment change la vie de la cité, et là, je vais utiliser le mot, comment change la politique, pas la politique au sens de gauche et droite, mais la politique au sens des nouveaux sujets de la vie de la cité, avec l'introduction de ces boîtes noires dans l'environnement immédiat de tout un chacun. Ça, c'est clair que ça crée une nouvelle vie de société et l'éducation, bien sûr, doit être là, mais aussi la science politique, aussi la pensée sur cette nouvelle société technologique qui est la nôtre.
Justement, enfin, la question aussi est relative au fait qu'il y a toujours des gens, enfin, il y a toujours des groupes qui vont se plaindre de... Enfin, notamment, dans vos diapositives, les toutes premières montraient des gens qui manifestaient contre les nanoparticules. Le constat qui est fait, c'est qu'il y a toujours des gens qui vont se plaindre, mais il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire en fait, les nanoparticules ont aussi des avantages. Bon, est-ce que, selon vous, il faudrait dire au public à la fois... enfin, il faudrait les faire part des avantages, des inconvénients de ces nouvelles technologies, notamment de cette boîte noire.
Tout cela est dit et fait. Il y a bien sûr des gens dans tous ces débats qui parlent des avantages de nanoparticules, tout à fait. Encore une fois, c'est un débat politique. Ce n'est pas une évaluation rationnelle des coûts et des bénéfices. Ce n'est pas un calcul rationnel économique de ce qu'on peut gagner ou perdre. C'est un débat symbolique et politique. Le scientifique, malheureusement, est très mal préparé, équipé, formé pour participer dans un débat politique et symbolique où la rhétorique compte, où les gens qui prennent des positions radicales souvent l'emportent sur des gens modérés, et donner des informations purement objectives, scientifiques, fournir des données, c'est ce que fait le scientifique et l'expert, c'est nécessaire et ce n'est absolument pas suffisant.
Donc pour intervenir sur ce que vous venez de dire, justement le problème des scientifiques qui doivent faire passer leur savoir, soit par la culture scientifique qu'on le fait, soit par la vulgarisation, je me souviens de l'intervention d'Hervé Le Treut, vous le connaissez, qui est un grand climatologue, et qui disait qu'il avait vraiment des difficultés à expliquer ce que c'est que le climat, ce que c'est que les changements climatiques. Donc il était obligé de passer par des formules assez simples et avoir une approche, disons, simplifiée pour lui, parce que c'est trop complexe. Donc à force de passer dans les médias, etc., il y arrive, mais il dit que c'est frustrant pour un scientifique, de toute façon. Déjà, si vous êtes interviewé 2 minutes à la télé, vous imaginez synthétiser des années d'études en 2 minutes. Mais c'est la difficulté qu'il y a aussi, c'est la difficulté de faire passer quelque chose qui correspond à des années de recherche et qui ne cible... Bon, lui, il parle de l'effet de serre, mais qui ne cible qu'une donnée, alors que les données sont beaucoup plus larges.
Je pense qu'on peut faire aussi autrement. Et bien sûr, simplifier, c'est la vulgarisation classique. Simplifier, expliquer, tout à fait. Mais vous avez vu, là, avec la légende du golem de Jérémie, c'était une autre façon de parler des problèmes d'éthique des sciences. Et d'ailleurs, j'ai écrit un petit livre qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle « Mécanique des étreintes ». Mécanique des étreintes. Où je parle d'information quantique, ça n'a rien à voir avec l'éthique des nanotechnologies, je parle d'information quantique, donc d'information et du calcul quantique, de la téléportation quantique, au travers les mythes, les légendes et les métaphores. Et je pense que c'est un autre moyen que la vulgarisation qui est très très important aujourd'hui.
Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, vous avez parlé un peu de la philosophie, et je sais à peu près que dans les années 50, il y avait beaucoup de thèses philosophiques qui disaient que technologiquement, l'humanité a fait un grand pas, nous avions beaucoup avancé, mais moralement, nous n'avions pas beaucoup avancé, nous n'avions pas pu rattraper le gros saut technologique. et qui ont en fait finalement pour maintenant qu'on touche à des technologies qui peuvent être très dangereuses pour l'humanité entière, que le salut entre guillemets, c'est de arrêter pendant un certain temps l'avancement technologique, puisque comme ça moralement on puisse rattraper et finalement utiliser ce qu'on nous a découvert maintenant pour un bon escient. Du coup, je voulais savoir comment est-ce que vous réagissez à ce genre de thèse.
Oui, effectivement, dans les années 40, on aimait bien ce mot de progrès. Et en 1947, d'ailleurs, a été organisée à Genève une grande réunion, ce qu'on appelait à l'époque, ce qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui aussi, les rencontres de Genève, une grande réunion à l'échelle mondiale qui avait pour thème progrès moral et progrès des sciences, progrès technique et progrès moral. Aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup du progrès moral, ni d'ailleurs du progrès technique. C'est un peu la phrase qui n'est plus tellement à la mode. La dernière fois que cette phrase a été utilisée dans un discours politique a été par Giscard d'Estaing, qui, au moment où elle admettait sa défaite devant Mitterrand en 1981. Donc, depuis, on n'a pas entendu parler du progrès technique non plus dans un discours politique. Mais le progrès moral. Dans les années 70, un moratoire a été tenté, un moratoire en ingénierie génétique qui s'appelle le moratoire d'Asie Lomar. C'est le seul qui a tenu pendant quelques années, puis il a été levé parce qu'à l'époque, les chercheurs avaient décidé qu'ils avaient acquis assez de connaissances. Une autre histoire de moratoire, nous l'avons vécu assez récemment sur les recherches, mais sur... je vais dire précisément sur quoi, sur la grippe aviaire, les variantes de H5N1. C'était un moratoire, non pas sur la recherche, mais sur la publication des certains génomes très dangereux. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle la recherche duale. Est-ce que la solution de moratoire est aujourd'hui réaliste? Sur la recherche, totalement irréaliste. Parce que dans ce monde où il y a d'un côté la Corée, de la Chine, de l'autre côté l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Sud, la Russie, on ne peut pas prendre une décision même à l'échelle de l'Union européenne et s'attendre à ce que les autres vont suivre. Ce qui est possible, et ça c'est l'approche de l'Europe, ce n'est pas la même approche que celle des autres acteurs internationaux. L'Europe essaye de montrer l'exemple en faisant de ce qu'on appelle de soft law. Alors, soft law, c'est cette loi molle des recommandations, des bonnes pratiques. Montrer l'exemple, comment faire. Je vous ai dit tout à l'heure, la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, a été le premier exemple de comment il fallait organiser un débat sur l'éthique des technologies de l'information. Et donc, l'Europe est pas mal suivie. L'Asie, en grande partie, imite l'Europe sur ces choses-là, sur les OGM aussi d'ailleurs. Et à mon avis, dans un monde comme le nôtre, où les moratoires sont complètement irréalistes, les interdictions vous donnent tout de suite un désavantage économique immense, la façon de faire, c'est de montrer l'exemple aux autres. Et si cet exemple est bon, on va être imité par les autres. Les autres vont nous suivre. Et ça marche pas mal, je dois dire, dans le domaine des nouvelles technologies. Ça dépend des technologies, ça dépend de plusieurs exemples. Mais globalement, l'Europe s'en sort plutôt bien. L'Europe, est, même si économiquement, on n'est pas du tout dans un monde de laisser-faire total, comme par exemple la Corée du Sud, où il y a beaucoup plus de laisser-faire. On peut tout faire presque. Enfin, pas tout à fait, mais presque. Mais l'Europe, en créant des contraintes, en créant de la soft law, montre l'exemple au monde entier.
Bon, je crois que... Tu veux dire un mot, Boniface? Non, mais je voulais vous remercier tous pour votre réactivité, le débat passionnant grâce à vous aussi, et bien sûr grâce à nos conférenciers qui viennent régulièrement. Ouais. Merci.